Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Notre auteur est pris par le virus de Saint-Jacques. Il choisit de parcourir la route appelée le chemin. L'amour en chemin. Comment choisit-on son point de départ? Il y a deux grandes philosophies que la Palisse pourrait exprimer ainsi. Soit on part de chez soi, soit on part d'ailleurs. Le choix est plus sérieux qu'il n'y paraît, et nombre de pèlerins m'ont fait confidence qu'il avait été difficile. L'idéal, paraît-il, car ce n'est pas le mien, c'est, comme le haut savoyard dont j'ai parlé, de sortir de sa maison, d'embrasser sa femme et ses enfants, de caresser le chien qui remue la queue parce qu'il espère vous accompagner, de refermer le portail du jardin et de partir. Ceux qui n'ont pas cette possibilité, parce qu'ils habitent trop loin ou ne disposent pas d'assez de temps, doivent se rapprocher du but, se placer au plus près de l'Espagne, raccourcir le parcours pour le rendre à leur mesure. Ils ne partiront pas de chez eux, mais d'où alors? Les chemins sont nombreux, les points de départ possibles innombrables. Le choix est difficile. Il dépend de quelques facteurs objectifs. Le temps dont on dispose, les lieux que l'on aimerait visiter, les guides que l'on a achetés, les récits que des amis ont pu vous faire. Cependant, des facteurs plus subtils et parfois moins avouables entrent en ligne de compte. Autant mentionner tout de suite une réalité que le lecteur découvrira tôt ou tard et qui ne pourra pas le surprendre plus qu'elle ne m'a surpris moi-même, le chemin est un lieu de rencontre, pour ne pas dire de drague. Cette dimension influence nombre de pèlerins, en particulier pour ce qui concerne le lieu de leur départ. Encore faut-il distinguer à quelle demande sentimentale répond le pèlerinage. Il y a en vérité plusieurs démarches affectives sur le chemin. La première est celle des amoureux de fraîche date, mais qui ont déjà rencontré l'âme sœur. Les petits amis, les compagnons, les fiancés appartiennent à cette catégorie. Ils sont souvent très jeunes, des tourtereaux chaussés de Nike, en pleine santé, des écouteurs sur les oreilles. Ce dont il s'agit, pour eux, c'est de donner à leur relation le coup de pouce final, celui qui les conduira devant l'hôtel, à la mairie ou, à tout le moins, au pied du berceau. Le chemin est l'occasion d'un tendre rapprochement. On marche main dans la main le long des nationales et quand un camion passe, un délicieux frisson parcourt les échines et rapproche les pèlerins énamourés. Ils vont d'église en église sur ce chemin sacré et il y a de quoi, espère le plus passionné des deux, donner des idées à l'autre. Le soir, dans les monastères, une joyeuse sarabande mêle fourrure et chair dénudée dans des lavabos que les moines, qui s'y connaissent, veillent à laisser mixtes. Sur les bas-flancs, on chuchote, on roucoule, et faute de pouvoir commodément passer à l'acte, on se promet l'amour éternel et la fidélité. Pour ces amoureux-là, le chemin est utile, mais il ne faudrait pas trop qu'il dure. Au bout de quelques jours, ces troupes qui vont en bande pourraient voir les sens s'égarer. Le promis est tenté de regarder un autre décolleté que celui de sa promise. Quant à la jeune fille, conquise de haute lutte, elle pourrait bien faire des comparaisons, dont ne sortirait pas toujours victorieux celui qui l'a conduite jusque-là. Aussi, ces couples réservent-ils leurs efforts pour les ultimes kilomètres. Ils ne parcourent que les toutes dernières étapes. On les rencontre en grand nombre sur les sentiers de Galice. Comme ces oiseaux, qui indique aux navigateurs la proximité de la mer, ils sont signes pour le pèlerin que Compostelle est proche. Il en va tout autrement de la deuxième catégorie, celle des marcheurs qui cherchent l'amour mais ne l'ont pas encore trouvé. Ceux-là sont en général plus âgés, ils ont connu la vie, parfois la passion et même le mariage. Puis le bonheur s'est défait et ils ont tout à recommencer. À un moment ou à un autre, le chemin leur est apparu comme la solution. Ceux-là sont en général plus âgés. Ils ont connu la vie, parfois la passion, et même le mariage. Puis le bonheur s'est défait, et ils ont tout à recommencer. À un moment ou à un autre, le chemin leur est apparu comme la solution. Moins désincarné que les sites de rencontres sur Internet, il permet de se retrouver en présence d'êtres en chair, en os et en sueur. La fatigue de la marche amollit les cœurs. La soif et les ampoules aux pieds rapprochent. et donne l'occasion de prodiguer ou de recevoir des soins. Celui ou celle pour qui la ville est impitoyable, avec sa concurrence terrible, ses modèles tyranniques qui condamnent le gros, le maigre, le vieux, le laid, le pauvre, le chômeur, découvre dans la condition de pèlerin une égalité qui laisse sa chance à chacun. Cela, et d'autant plus que la nature les a moins favorisés, préfèrent partir de très loin pour mettre toutes les chances de leur côté. Sur des centaines de kilomètres, on les retrouve et on peut les observer. On voit ces éclopés de l'amour se rapprocher, se flairer, s'éloigner ou s'unir. On les voit manquer leur but, être cruels parfois avec tel autre qui aimerait leur ouvrir son cœur mais qui ne leur plaît pas. On voit des désillusions au bout de quelques étapes, quand celui qui aurait pu être le grand amour tant cherché a fini par avouer en gravissant une côte qu'il est marié et qu'il aime sa femme. Mais on voit aussi des couples authentiques se former et on espère qu'ils seront heureux. Pour se donner du courage, sans doute, les filles partent souvent en groupe. J'en ai rencontré qui venaient de très loin, avaient traversé la France, sans trouver, hélas, celui qu'elles espéraient. Elles attaquaient courageusement l'Espagne et souvent, quelques étapes plus tard, l'une d'elles disparaissait. Elle suivait un autre groupe et tentait sa chance auprès d'un nouveau prince charmant. Assez bêtement, en observant ces scènes, je pensais à l'expression « trouver chaussure à son pied ». Le chemin est dur, mais il a parfois la bonté d'exaucer les vœux les plus intimes. Il faut savoir persévérer. On raconte l'histoire d'un accordéoniste qui gagnait sa vie sur le chemin en jouant de son instrument à chaque étape. Il venait de divorcer, était très malheureux, et j'imagine qu'il jouait des complaintes tristes, sans grand succès auprès des femmes. Arrivé à Compostelle, il s'est inscrit dans une association de musiciens. Là, il a rencontré une Allemande qui avait la même passion que lui et autant de blessures à l'âme. Ils se sont mariés et chaque année reviennent ensemble sur le chemin. La musique qu'ils jouent maintenant ensemble est pleine de gaieté et de charme. L'histoire est sans doute trop belle pour être vraie, mais c'est avec de telles légendes que l'on entretient l'espoir de tous ceux qui se recommandent à Santiago pour n'être plus malheureux. La troisième catégorie, moins romantique mais non moins attendrissante, est constituée par ceux qui ont connu l'amour il y a bien longtemps, ont contracté les liens sacrés du mariage et subi son usure, au point qu'ils aspirent surtout à retrouver la liberté. C'est une liberté gentille qui ne casse pas tout, qui ne fait pas de mal à l'autre, mais qui, grâce à l'intervention providentielle de Saint-Jacques, justifie que l'on puisse souffler un peu. Le volontaire de l'Association des Amis de Saint-Jacques, qui m'a accueilli à Paris et donné ma crédentiale, appartenait à cette catégorie. Quand je lui demandais de me raconter son propre pèlerinage, il le fit avec les larmes aux yeux. Malgré son âge avancé, il avait très bien supporté l'effort de la marche. Sa liberté nouvellement conquise l'avait à ce point grisé que, arrivé à Compostelle, il ne s'était pas arrêté. Il avait continué sur un sentier qui descendait vers le Portugal. Si un pont avait enjambé les eaux de l'Atlantique pour rejoindre le Brésil, il s'y serait engagé sans hésiter. Le malheureux évoquait cette folie avec un sourire nostalgique. Quand je lui demandais comment les choses s'étaient terminées, il se renfrogna. Je compris que sa femme avait dû prendre un avion, un train et deux autobus pour le retrouver et le ramener à la maison. Mais il avait goûté à la liberté et il ne comptait pas y renoncer. Il était reparti dès l'année suivante et vivait toujours dans l'espoir d'un nouveau départ. Il m'interrogea sur mes intentions. D'où allais-je partir ? Je n'y avais pas réfléchi. N'appartenant à aucune des catégories précitées, je n'avais pas, pour guider mon choix, de considération affective. Je voulais marcher, un point, c'est tout. J'avouais au volontaire mon intention de partir d'Andaye à cause de mes hésitations concernant la grande traversée des Pyrénées. Il me regarda avec ironie. « Vous ferez comme vous voudrez », me dit-il. Cette antiphrase cachait une certitude bien ancrée en lui et en moi aujourd'hui. De toute façon, avec le chemin, on ne fait jamais ce que l'on veut. On peut bien raisonner, élaborer d'autres plans, il finit toujours par l'emporter et c'est ce qui arriva. L'homme de l'association avait écarté mes doutes, mais retenu un seul mot, Andaye. Si vous partez d'Andaye, vous ferez le chemin du Nord. Il y a deux chemins jacquaires principaux en Espagne, à partir de la frontière française. Le premier est appelé Camino Frances. À part l'étape de franchissement des Pyrénées à Roncevaux, il ne comporte guère de difficultés. C'est de très loin le plus fréquenté. Certains jours, 150 pèlerins s'élancent en même temps de Saint-Jean-Pied-de-Port. L'autre, c'est le chemin côtier, encore appelé Chemin du Nord. Il a la réputation d'être moins bien balisé, plus difficile. Il part du Pays basque français et suit les villes de la côte, Saint-Sébastien, Bilbao, Santander. Le chemin du Nord, bredouillai-je. Oui, c'était mon intention. Qu'en pensez-vous? L'avez-vous fait? L'homme alla fouiller dans un placard poussiéreux et sortit un petit tas de feuilles renéotypées, des cartes, une brochure. Ses mains tremblaient quand il me les tendit et je vis que ses yeux brillaient. « Le chemin du Nord !» me dit-il en haletant. « Il faut choisir le chemin du Nord !» Je l'ai suivi, oui, mais seulement la deuxième fois, car, voyez-vous, on me l'avait interdit. « Interdit ?» Enfin, c'est une façon de parler. Quand j'étais venu chercher ma crédentiale, comme vous, là, aujourd'hui, je suis tombé sur un homme qui... Je vis passer dans ses yeux une lueur de haine. « Qui m'a dit que j'étais trop vieux !» cracha-t-il. « Que je ne tiendrais pas le coup !» C'est à cause de lui que j'ai suivi d'abord le Camino Frances. Mais j'enrageais, monsieur, j'enrageais. L'année suivante, j'ai dit à ma femme, cette fois, je fais le Norte. Et j'y suis allée. Alors ? Bah alors, je n'ai eu aucun problème, pardi. 30 km par jour en moyenne, et je ne suis pas un athlète. Un silence se fit. J'étais un peu gênée par tant de passion. C'est que je ne connaissais pas encore le chemin. Soudain, je sursautais. L'homme m'avait pris par le bras. « Allez-y, monsieur !» me cria-t-il. « Faites le Norte, c'est le plus beau, croyez-moi le plus beau !» Je le remerciai et pris la fuite en me disant que décidément, ce pèlerinage était une affaire d'exalté et que je devais rester prudemment sur mes sentiers de montagne. Je décidai sans hésitation de faire la haute route des Pyrénées. 8 jours après, je partais pourtant vers Compostelle en suivant le chemin du Nord.
C'était Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions de Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.